L'intelligence artificielle suscite auprès du public un intérêt qui ne cesse de croître. Chacun d'entre nous s'entend bien que l'IA, comme on la nomme en abrégé, a déjà changé radicalement nos vies. Si les intelligences artificielles fascinent, elles inquiètent aussi par les capacités qu'elles sont capables de développer. Et cet après-midi, dans l'émission et dans le cadre d'un partenariat avec nos confrères de Libération, nous allons aborder les questions éthiques autour des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Je vous présente mes invités dans un instant et j'attends dès maintenant vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, la fièvre typhoïde. Et cette question, a-t-elle décimé les Aztèques au XVIe siècle?
Et si c'est elle, venait-elle d'Europe? Une question relancée par l'analyse génétique de 29 squelettes découverts au Mexique. On en discute avec l'archéologue Stéphane Rostin.
Et c'est Fanny Boyon qui est aux commandes de l'émission, préparée aujourd'hui par Thomas Kalevitch avec Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc au programme, les enjeux éthiques des algorithmes et des intelligences artificielles, on va les nommer au pluriel, dossier de l'émission donc dans un instant avec mes invités que je salue, Julie Gaillot pour l'Institut CSA, Victor Demiaux de la CNIL et le philosophe Jean-Michel Beignet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Julie Gaillot, vous allez dans 10 minutes nous livrer les résultats donc d'un sondage sur les Français et l'intelligence artificielle. Est-ce que d'un mot, les craintes apparaissent dans les réponses des personnes interrogées?
Alors oui, on voit que l'IA suscite un certain nombre de craintes chez les Français, plutôt sociétales, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt.
Ouais, et ils connaissent bien, hein, on verra aussi déjà cette IA. Hein.
Oui, ils sont déjà très familiers avec toutes ces notions en fait.
On va rentrer dans les détails de cette enquête dans un instant. Victor Demiaux, la CNIL, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a animé un débat public entre janvier et octobre dernier. C'était dans toute la France pour identifier les sujets de préoccupation éthique justement soulevés par les algorithmes et l'intelligence artificielle. Avec quoi? L'idée en toile de fond d'une intelligence artificielle au service de l'homme? C'est ce qui sort un petit peu.
Exactement. L'idée était de déconstruire un petit peu, enfin en tout cas d'identifier ce qui aujourd'hui peut être considéré comme enjeu éthique, comme problème de société, à la fois pour apporter un peu de sérénité dans un débat qui en a souvent besoin, et pour commencer, en fait, pour entamer une réflexion qui devra se poursuivre de toute façon, et elle se poursuit encore, sur la façon d'appréhender ces systèmes, parce que l'IA, les algorithmes, c'est pas une chose qui nous arrive comme ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action, c'est à nous de le construire et il faut commencer à analyser ces enjeux, c'est ce qu'on a fait.
Mais Jean-Michel Beignet, vous qui êtes philosophe et spécialiste des nouvelles technologies, c'est une époque incroyablement intéressante quand même aujourd'hui, ce qui se passe avec l'essor de ces intelligences, il y a matière à réfléchir. Hein.
Ah, je crois qu'effectivement on assiste à un bouleversement que certains appellent anthropologique, hein, ouais. Lié au fait que l'intelligence artificielle, qui existe quand même depuis longtemps, n'était pensée que comme un outil dont on pouvait se servir ou ne pas se servir. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est devenu une culture qui modifie notre manière de voir le monde, notre manière d'interagir les uns avec les autres, et qui nous pose une question terrible, que la CNIL, d'ailleurs, a déclinée, c'est cette question. Est-ce qu'on va pouvoir garder la main?
Eh bien, on va en parler avec vous hein, dans quelques minutes et en réaction, bien sûr, au message des auditeurs. Et puis, on se retrouvera également ce soir, grande soirée autour de l'intelligence artificielle au Studio 104 à la Maison de la Radio. Soirée qui sera retransmise ce week-end sur le site de France Inter pour ceux qui n'auront pas la chance d'être avec nous ce soir. Était-ce la rougeole ou la variole européenne et pourquoi pas la fièvre typhoïde qui a ravagé les sociétés américaines du Mexique entre 1540 et 1580? Un vif débat scientifique existe sur la nature et l'origine de la maladie qui a tué, selon les estimations, plus de 20 millions de personnes. Des chercheurs de Leipzig en Allemagne ont analysé la pulpe dentaire de 29 squelettes enterrés à Oaxaca et pointent du doigt la bactérie qui provoque la fièvre typhoïde. Et pour replacer ce nouvel indice dans l'histoire des Amériques, on accueille notre invité Axel.
Oui Mathieu, on est avec l'archéologue Stéphane Rostin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste des peuples d'Amérique et particulièrement d'Amazonie. Combien de personnes en tout sont mortes après l'arrivée des conquistadors aux Amériques?
C'est une question quasiment impossible à répondre puisqu'on n'a pas d'estimation très juste du peuplement de l'Amérique. C'est très variable d'une région à l'autre, entre les Andes, le bassin amazonien ou le Mésoamérique. On parle de 80 à 95% de morts suite à l'impact bactérien de l'arrivée des Européens.
Donc le responsable, c'est la maladie en priorité?
En général et en priorité. Moi, j'aurais été avec mon rhume aujourd'hui une bombe bactériologique si j'étais arrivé avec des conquistadors à l'époque.
Ici, ces 29 squelettes étudiés sont issus d'une des seules sépultures attribuées officiellement à cette grande épidémie. Et les chercheurs trouvent donc la fièvre typhoïde des résidus de l'ADN de cette bactérie. Est-ce que pour vous, c'est un indice intéressant pour savoir comment sont mortes ces personnes?
Oui, mais la question reste de savoir si cette typhoïde était endémique ou si elle était apportée par les Européens. C'est encore une question qu'il est difficile de résoudre, puisque la typhoïde existait en Europe, on l'a su par des analyses faites en Norvège. Il n'y avait pas non plus vraiment de raison pour qu'elle n'existe pas auparavant en Amérique du Sud. Et 29 squelettes, ce sont 29 personnes, c'est pas beaucoup de monde. Mm-hmm. C'est peut-être une toute petite épidémie. En tout cas, de là à extrapoler, à en faire la mort des Aztèques, il y a quand même un gouffre que je ne veux pas franchir.
Mais est-ce que l'étude nous dit exactement d'où provient cette typhoïde?
Non, justement, ils savent pas. Ils savent qu'elle existait en Norvège, mais ils savent pas si c'était ce type de typhoïde, de salmonelle. Et ils disent clairement, ils sont très prudents, les scientifiques de Max Planck qui font cet article. Ils disent, elle a pu exister ou pas en Amérique avant. Une belle réponse de Normand.
Ouais.
Mais c'est la prudence qui leur fait dire ça. Ouais. Après, des gens, des journalistes ont franchi...
Et sont moins prudents.
Beaucoup ouais. moins prudents. C'est assez drôle d'ailleurs l'effervescence qu'a créé cet article, puisque on lui a fait dire plein de choses. Avant de le lire, moi j'avais entendu toutes sortes de choses.
C'est embêtant quand même, non?
C'est classique, je dirais, non?
Oui, mais c'est embêtant.
C'est embêtant, mais c'est assez courant.
Est-ce qu'il y a vraiment un débat scientifique pour savoir si ces maladies ont été importées par les conquistadors ou étaient...
Il y en a clairement qui sont venus d'Europe. Oui. Des grippes, beaucoup de maladies pulmonaires qui pouvaient décimer un village. Il faut savoir que les conquistadors eux-mêmes n'étaient pas forcément conscients, alors qu'ils sortaient de la peste noire, de la grande peste noire du Moyen-Âge, ils n'étaient pas forcément conscients de tuer les Indiens parce qu'ils ne les voyaient pas forcément mourir, puisque les maladies couraient devant les conquistadors, puisqu'il y avait un réseau d'échanges dans toute l'Amérique et des chemins parcourus par toutes sortes de marchands et de voyageurs qui apportaient les maladies avant même que les gens voient les blancs. Donc en Amazonie, on a des témoignages d'explorateurs qui arrivent dans des villages où remplis de morts, avec des squelettes par terre, des squelettes dans les hamacs, ils sont morts tellement vite qu'ils n'avaient même pas le temps d'enterrer leurs défunts. Et jusqu'au XXe siècle, il y a encore des ethnologues qui pénètrent dans des villages amérindiens non contactés dans le Maranhão, par exemple, et qui, trois semaines après... La moitié du village est morte de maladies importées. Et on continue à voir les groupes non contactés qui sont extrêmement fragiles à nos maladies.
Quels sont les symptômes d'une fièvre typhoïde puisqu'on parle de cette maladie?
Là, je peux en parler puisque je l'ai eu.
Alors... Vous ne l'avez plus, rassurez-nous.
Mais j'ai eu 11 mois quand même, ce qui est beaucoup.
Mais pas aujourd'hui dans ce studio en tout cas.
Non, c'est juste un rhume aujourd'hui.
On est rassuré.
Alors on a de gros trous intestinaux, donc des grosses douleurs, on peut presque rien avaler, avec des maux de tête évidemment, et des fièvres, des grosses fièvres, et surtout un état de fatigue généralisé qui peut conduire à la mort. Moi, je dormais jusqu'à 16 heures par jour. Ah. Donc on est juste épuisé en permanence.
Pour se replacer un petit peu dans le contexte de manière romancée, on va écouter l'extrait d'un téléfilm, La controverse de Valladolid en 92. Et le débat est de savoir si les Indiens ont une âme.
300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises. Aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux. Comment ne pas y voir une punition divine?
Voilà la voix de Jean-Louis Trintignant.
Est-ce qu'on peut imaginer que ces maladies soient la conséquence de maltraitance ou de conditions d'hygiène déplorables pour ces Indiens et dans la façon dont ils ont été traités?
Non, je pense qu'il y a d'abord eu une infection, enfin le passage par les conquistadors qui avaient des maladies souvent très contagieuses. La typhoïde est très très contagieuse. Par exemple, il suffit qu'une personne l'a pour que tout autour d'elle, les voisins l'attrapent. Donc c'est pas les conditions de vie, c'est plutôt le fait qu'on a apporté des microbes qui n'existaient pas, qui a tué les Indiens.
Est-ce que derrière le débat scientifique, il y a un débat politique de savoir d'où venaient ces maladies ?
C'est surtout ça qui est inquiétant, puisque il y a eu toute une école essentiellement nord-américaine qui veut absolument dire que finalement le conquistador n'avait pas totalement tort, n'avait pas tué les populations puisqu'elles étaient déjà mortes avant.
C'est une façon de se disculper.
Totalement, ouais. Les Nord-Américains avaient déjà inventé la Bible noire pour justifier de leurs exactions. Et là, il y a un bon exemple, c'est le film Apocalypto qui se termine avec la phrase que les Indiens étaient déjà porteurs des germes de leur destruction. C'est-à-dire que finalement, on a juste précipité un événement inéluctable. Et il y a toute une école qui veut faire passer ce message politique qui est faux.
Et donc, c'est dangereux. Et on en discute encore aujourd'hui, en 2018, et c'est 20 millions de personnes au bas mot, décédées donc à cette époque.
Au Mexique, juste au Mexique, c'est
juste
ça.
Juste au Mexique, mais après les estimations ne valent que ce qu'elles valent, c'est-à-dire pas beaucoup.
Donc attention aux interprétations des études qui, elles, disent des choses, c'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas très bien de quel côté venait cette fièvre.
Ben non.
Exactement. Merci beaucoup Stéphane Rostin. Je cite le titre de votre ouvrage, Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes, qui a reçu le grand prix du livre d'archéologie l'année dernière avec une mention spéciale du jury. C'est un ouvrage qui fait déjà référence. Vous reviendrez d'ailleurs nous en parler, on consacrera une tête au carré. Vous étiez passé chez Fabienne Chauvière, je me souviens, je vous avais entendu, c'était passionnant. Et ce livre est paru chez Belin. Donc à bientôt et merci d'être passé dans le studio de La Une. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le fémur de Toumaï, un secret jalousement gardé, découvert il y a près de 16 ans au Tchad. Toumaï, daté de 7 millions d'années, est considéré aujourd'hui comme le plus ancien ancêtre des hominidés. Lors de l'annonce de cette découverte majeure, donc en 2001, seul le crâne avait été mis en avant pour justifier la bipédie de l'animal. Pourtant, quelques années plus tard, une jeune stagiaire chargée d'étudier une partie des ossements rapportés de l'expédition était tombée sur ce qui s'apparente au fémur de Toumaï. Tombée justement dans l'oubli, ce fémur refait sur face aujourd'hui et pourrait faire polémique. Il s'agit en effet pour certains experts d'une pièce clé susceptible de remettre en cause le caractère bipède de Toumaï et donc également le caractère exceptionnel de la découverte de Michel Brunet. Les excréments d'oiseaux, gigantesques réserves d'azote, une nouvelle étude parue dans Nature Communication révèle à quel point ce fertilisant naturel est à la hauteur de sa réputation d'or blanc. L'ensemble des oiseaux marins produirait selon les estimations presque 4 millions de tonnes d'azote chaque année. Les chercheurs pense également qu'ils excrètent 99 000 tonnes de phosphore, comme 12% de l'azote et 22% du phosphore ainsi produits sont rapidement solubles. Les nids de ces espèces sont d'exceptionnels pourvoyeurs de nutriments pour les plantes et la faune marine à proximité. Et puis Titan et la Terre, plus semblables qu'il n'y paraît, même si sur Titan, les lacs et les mers sont à base d'hydrocarbures, leur hauteur moyenne, comme sur Terre, est constante. C'est la nouvelle caractéristique que partagent ces deux astres. Les chercheurs de l'université Cornell à Ithaca, aux États-Unis viennent de montrer que les plus grandes mers et lacs de Titan reposent à une altitude uniforme. Ils ont également constaté d'autres similitudes entre les lacs des deux planètes. D'après eux, cela suggère que les corps liquides de Titan doivent être connectés d'une manière ou d'une autre et que des écoulements généralisés en sous-sol sont à l'œuvre. Ils espèrent prouver qu'il existe des groupements de réservoirs d'hydrocarbures interconnectés, peut-être via une future visite de cette plus grosse lune de Saturne. Et les questions éthiques dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré. We'll be right back.
your man.
Oh me, oh my, son little à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
À un moment donné, à l'orée du 21e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA.
L'IA, tu veux dire l'intelligence artificielle.
Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries. Et les hommes pensaient qu'en fait, les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts, et plus de 25 000 bio-unités de chaleur corporelle. Les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent.
Voilà, extrait du premier Matrix en 1999 pour évoquer ensemble les questions éthiques autour des algorithmes et des intelligences artificielles. Dossier de la tête au carré en partenariat donc avec Libération. Et à quelques heures de trois grands débats qui vont avoir lieu donc ce soir au studio 104 de la Maison de la Radio et que vous pourrez retrouver en intégralité donc ce week-end sur le site de France Inter. Julie Gaillot, vous êtes avec nous, co-directrice du Pôle Society à l'Institut CSA. Vous allez nous dévoiler dans un instant les résultats du sondage sur les Français et l'IA. Je crois que tout le monde connaît maintenant l'abrégé, hein. Intelligence artificielle, IA, ça y est.
Oui, c'est... on dirait, puisque les Français sont assez familiers avec ce concept. En effet. Ouais.
Victor Demieux, vous êtes vous conseiller de la présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et donc, vous avez été responsable de ce débat public sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui s'est tenu tout au long de l'année dernière et dont un rapport a été publié. Et puis Jean-Michel Beignet, philosophe spécialiste des nouvelles technologies, vous avez publié en 2016 « Les robots font-ils l'amour ?» C'était avec Laurent Alexandre chez Dune. Et on aborde donc ces questions éthiques avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà nombreux. Et c'est pas surprenant parce qu'il y a un engouement. Alors je sais pas s'il y a eu une espèce de gap qui a été dépassé là ces derniers mois, mais on sent vraiment, on l'a senti autour du hors-série publié avec Libération, on l'a senti aussi avec les débats organisés ce soir. Les places ont été prises d'assaut tout de suite pour assister donc à ces rencontres. Julie Guillot, ça ressort aussi de l'enquête, cet engouement, cette curiosité pour l'intelligence artificielle, hein.
Clairement, c'est un des enseignements principaux en fait de cette étude, c'est ouais. Le formidable intérêt des Français pour ces questions d'IA. Et c'est vrai qu'on a été surpris. Surpris de voir que 94% des Français ont entendu parler de l'IA.
94%?
Oui, ça fait quasiment
ouais.
tout le monde.
Ouais.
Que 54% d'entre eux nous disent voir très bien de quoi on parle.
Mmh.
Et au final, vous voyez... que c'est pas juste des belles paroles, puisqu'on leur a clairement demandé « Oui, vous m'avez dit que vous savez ce que c'est que l'IA, mais dites-moi un peu de quoi on parle là ?» Ils sont capables de nous restituer beaucoup d'éléments. Ils nous parlent de simulation de l'intelligence humaine. Ils nous parlent d'algorithmes. Ils nous parlent de programmes. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de contenu.
Ça, c'est vraiment étonnant parce que le domaine est tellement protéiforme, Victor Demieux. Ça ressortait déjà des débats publics aussi, cette très bonne connaissance au fond du sujet.
Alors, la CNIL avait aussi diligenté un sondage, alors pas sur l'IA, mais sur les algorithmes, au début de l'année. On sentait déjà que ces questions commençaient à percer dans le public. Donc le sondage que vous présentez aujourd'hui en fait amplifie la tendance, mais on l'avait déjà senti arriver.
Ouais. Jean-Michel Beignet, ça vous surprend pas vous du tout?
Ouais, si, bien sûr que ça me surprend. Et je me dis que c'est sans doute sur base de malentendus, tout
ah
ça.
Bon ah bon? C'est vrai? Pourquoi?
Je pense, hein, parce que la représentation qu'on se fait de plus en plus de l'intelligence artificielle consiste à dire que finalement, dès qu'on a une machine autonome et mobile, il y a de l'intelligence artificielle. Donc la robotique... qui a beaucoup fait pour la fascination concernant l'intelligence artificielle, la robotique est souvent mise en avant dans l'imaginaire des gens. Hein, le robot connote l'intelligence artificielle, alors qu'un informaticien répugnerait un petit peu à dire que l'intelligence artificielle, c'est le robot Android de Monsieur Ishiguro au Japon. Mm-hmm. Voilà. Donc je pense qu'il y a là quelque chose quand même malentendu.
Julie Gaillot, pour répondre à ça.
Oui et non, parce qu'on voit en effet que dans leur verbatim, ils nous parlent beaucoup de robots, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils nous parlent d'algorithmes, de programmes, de simulation de l'intelligence humaine, etc.
Ça, donc ce sont des termes qui ressortent spontanément
oui,
des personnes interrogées.
Oui, c'est une question ouverte en fait. Donc ils nous disent tout ce qui leur passe par la tête, et après nous on regarde ce qu'il y a dans les verbatims. Donc c'est vraiment voilà, on voit que c'est finalement il y a pas mal de contenu, c'est assez complet, et il y a un niveau de familiarité qui est quand même pour moi à la lecture de ce sondage assez élevé. Et c'est pas comme on traite souvent de ces sujets. Je me souviens d'un sujet qu'on a fait en 2011 sur le numérique. On sentait les Français beaucoup plus perdus, beaucoup plus hésitants. Ils savaient pas où aller. Ils savaient pas vraiment nous dire ce qu'il y avait sous le capot, etc. Là, c'est pas pareil.
Alors, les menaces, justement, parce qu'on passait cet extrait de Matrix, hein, qui brossait un tableau apocalyptique, justement, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ressort aussi, ça, dans les réactions des Français?
Oui, c'est vrai. On a clairement le sentiment d'une menace sociétale, d'une menace collective. Il nous parle de menaces pour l'emploi, il nous parle de menaces pour la démocratie, il nous parle de menaces pour la protection de la vie privée ou encore pour les rapports entre les gens. Donc, en effet, se dessine parfois un scénario apocalyptique à la Terminator ou à la Big Brother, ou encore, on voit aussi les temps modernes de Charlie Chaplin. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ça derrière ces perceptions, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, ils ont peur. Et oui, quand on lit leur verbatim, ceux qui ont peur, on sent qu'il y a vraiment une vraie angoisse. Et que c'est un ton un peu apocalyptique de fin de l'humanité, de menace sur l'être humain. Et comparé aux bénéfices, les bénéfices, ils sont plutôt à titre individuel, à titre pratique. Je comprends bien à quoi ça va me servir pour gérer ma maison, pour ma santé, pour conduire ma voiture, etc. Mais vous voyez, les bénéfices, ils sont pratiques, et les menaces, elles sont presque, les angoisses, elles sont presque existentielles.
Jean-Michel Beignet, est-ce que la population, le citoyen, a pu être marqué aussi par les grandes déclarations fracassantes de certaines personnalités internationales ultra connues et qui sont exprimées en des termes vraiment peu élogieux hein, sur l'IA?
Il est certain que l'appel qu'on produit Elon Musk, Stephen Hawking, Noam Chomsky, Bill Gates.
Qui parlait d'apocalypse, hein.
Bah oui,
les mots étaient
cités
quand même.
L'intelligence artificielle risque de tuer l'espèce humaine, c'est ce qu'il disait.
Donc bon, ça nous marque quand même.
Bah, bien entendu, ça, surtout venant de la part de quelqu'un comme Stephen Hawking qui vit de l'intelligence artificielle, ou d'Elon Musk qui, ou Bill Gates qui ne gagne de l'argent que sur l'intelligence artificielle. Ouais. Donc effectivement, ça a un petit peu chamboulé les esprits, et on en est encore à se demander s'il y avait là quelque chose comme un gag, surtout quand on songe que Elon Musk est en train de créer une société qui s'appelle Neuralink, hein, et qui vise tout simplement à faire en sorte que nos cerveaux soient connectés directement aux machines. Oui. Donc on se demande de quoi retourne cette espèce d'apocalyptisme un peu complaisant venant de des gens comme eux.
Ouais. Victor Demiot, ça ressortait aussi ça des discussions avec les citoyens ou pas?
Alors nous, c'est quelque chose que on a peu vu, probablement aussi parce que les gens qui font la démarche de venir participer à un débat ont déjà un minimum d'informations et sont sensibilisés au sujet. Donc, ce sont des questions qu'on a peu vu ressortir. C'est aussi des questions qu'on a quand même choisi de mettre de côté parce que quand on consulte les grands spécialistes en France, si vous parlez de ça à Gérard Berry, professeur au Collège de France, ou à Jean-Gabriel Ganassia, ils ne sont pas particulièrement alarmistes sur ces questions. Une autre chose qu'on peut constater, c'est aussi que toutes ces thématiques apocalyptiques sont une excellente manière de produire un écran de fumée qui permet d'occulter des problèmes beaucoup plus, alors je dirais pas terre à terre, mais disons beaucoup plus classiques
proche,
qu'on connaît
proche,
depuis longtemps.
Et proche des gens aussi.
Où vont les données, comment on les utilise, comment on protège les libertés.
Alors Julie Gaillot, pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, là aussi, il y a des choses très concrètes qui ressortent hein, des propos des Français.
Oui, effectivement, ils se sentent menacés sur le plan de la protection des données personnelles. Mais c'est vrai que quand on voit justement toutes ces menaces, etc., on voit que le scénario à la Terminator, c'est vrai, il est pas très loin. Il y a quand même 43% des Français qui nous disent qu'un jour, c'est possible que les machines prennent le pouvoir sur l'humain. Donc, on voit que les craintes, les images, elles sont très très fortes sur les angoisses. Ouais. Cela étant, ça n'empêche pas les Français de vouloir aller plus loin en matière d'IA. Malgré ces hésitations, malgré ces craintes, vous avez quand même 46% des Français qui nous disent qu'en matière d'IA, faut aller plus loin. Versus 45 qui nous disent bon bah c'est bien finalement on va s'arrêter là et seulement 8 qui souhaitent revenir en arrière. Ouais. Donc vous voyez,
chacun ayant bien mesuré aussi les avantages que ça pouvait procurer dans la vie quotidienne. Hein.
Oui, en termes de simplicité, d'efficience, de rapidité, etc. Mm. Mais voilà, malgré tout, la moitié de la population souhaite aller encore plus loin.
Un mot pour terminer sur ce sondage, sur le rapport des jeunes justement à l'IA, ça c'est hyper intéressant et sur le rapport et la question de l'emploi en particulier.
Effectivement, c'est une des grandes surprises de ce sondage, c'est que les jeunes, sur les questions d'IA, ils figurent pas du tout parmi les plus enthousiastes. Loin s'en faut. En fait, ils sont parmi ceux qui sont les plus réservés. Ils se sentent menacés par l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont bien compris que... Enfin, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à terme, leur emploi, leur futur emploi pourrait être effectué par un robot. Ils sont 68% des 18-24 à partager cette opinion, ce qui est massif. Donc si vous voulez, c'est une catégorie de la population qui est fragile, qui pense qu'elle vivra moins bien que ses parents, qui craint pour son avenir. Et du coup, face à ces questions d'IA, ils donnent beaucoup plus de réserves et ils figurent parmi ceux qui souhaitent davantage maintenir le statu quo actuel et pas vraiment aller plus loin. Il y a une vraie question sur ces générations futures qui hésitent à monter dans le train de l'IA, en fait. On a du mal à les embarquer parce que eux, ils se sentent menacés, et ce qui n'est pas le cas en fait des autres, des 50-64 ans, qui voient plutôt les bénéfices qu'ils pourront en tirer en matière de gestion de leur santé.
Ouais. Jean-Michel Beignet, un commentaire rapide sur cet aspect-là du sondage.
Écoutez, moi, il me paraît tout à fait important qu'on souligne cette ambivalence face à l'intelligence artificielle. Vous avez dit, et c'était intéressant de dire, il y a ceux qui disent « on a peur », et ça va mal finir », et puis il y a ceux qui ne disent pas qu'ils n'ont pas peur, mais ils disent qu'il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est quand même étonnant. Tout se passe comme si, finalement, il y avait deux attitudes face à l'intelligence artificielle. Soit on dit que l'intelligence artificielle va nous tuer et il faut résister. Soit on dit que l'intelligence va nous tuer et après tout, ça serait peut-être pas si mal. Et c'est ça, c'est quand même toute la problématique des transhumanistes. De dire il faut passer à autre chose. L'humanité a fait son temps, et si on est remplacé par des machines en 2045, ça serait peut-être pas si mal que ça.
Allez, les questions éthiques, on en parle, et on en parle avec les auditeurs, parce que les messages sont nombreux sur franceinter.fr, et je vous les transmets dans un instant. Vous nous rejoignez également sur le mot-clé « l'attaque ». Et la route, c'était Da Silva.
La tête au carré sur France Inter.
Quand vous avez un problème avec votre télévision ou un achat, la solution, téléphonez au service client.
Si vous souhaitez souscrire une offre fixe ou internet, faites-le.
Ce que vous n'imaginez pas, c'est qu'à l'autre bout du fil, très souvent, c'est un robot qui vous parle.
Au revoir et à bientôt.
Fini les opératrices téléphoniques. Celui qui vous aide, c'est lui, un logiciel informatique. Une intelligence artificielle programmée pour ressembler à un humain, et c'est grâce à ses techniciens. Ils enregistrent des phrases pour créer un dictionnaire acoustique. Soit des milliers de sons dans lesquels le robot n'aura qu'à piocher pour former ses propres phrases.
Cette voix de synthèse peut dicter n'importe quel texte, mais elle peut aussi parler à voix basse.
Mais pour cette responsable de centre d'appel, même s'ils imitent plutôt bien l'homme, les robots ne sont pas prêts de remplacer totalement les employés des services clients.
Un robot n'aura jamais l'empathie, l'écoute que peut avoir aujourd'hui un être humain, que ce soit dans notre métier ou par ailleurs dans la vie de tous les jours.
Voilà, c'était extrait d'un reportage de France 2 en décembre 2016 avec ce robot au bout du fil, avec mes invités Julie Gaillot, Victor Demieux et Jean-Michel Beignet pour parler des problèmes éthiques liés à l'intelligence artificielle. Jean-Paul, justement, sur le site de l'émission, nous dit: est-ce qu'on n'est pas en train de totalement déshumaniser nos sociétés? Jean-Michel Beignet, mon regard se tourne vers vous, évidemment, parce que c'est un terme que vous avez souvent employé. Hein.
Oui, bien sûr, c'est ce à quoi je m'attache, à essayer de voir dans quelle mesure cette espèce d'engouement pour les machines n'a pas comme revers, effectivement, de faire perdre aux humains le sentiment qu'ils ont des initiatives et qu'ils restent finalement à la source des choses. Mmh. Moi, je crois que vraiment, on est dans une période de profonde démoralisation. Démoralisation au sens où on perd le sentiment de la responsabilité, le sentiment de la liberté. Je lisais dans le magazine, enfin Libération,
le hors-série Libération,
les propos de Yann Lequin, avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord, parce qu'il disait au fond, oui, c'est vrai que ça paraît humiliant que la machine soit de plus en plus forte et meilleure que nous. Hein, mais cette humiliation, c'est pas si grave, disait-il. Et il évoquait, vous savez, le propos de Freud qui disait que depuis l'aube de l'humanité, les hommes passent de déception en déception. Hein, ils se croient le centre de l'univers. Galilée leur dit qu'ils sont sur une petite terre et c'est pas grand-chose. Ils se croient la créature de Dieu et Darwin leur dit mais non, vous descendez du singe. Ils se croient conscients, responsables, etc. Freud leur dit mais non, pas du tout. Il y a de l'inconscient en vous. Bah, aujourd'hui, la machine, l'intelligence artificielle accomplit une espèce de quatrième blessure narcissique et je crois que ça se traduit par cette démoralisation ambiante qui peut prendre parfois la tournure d'un enthousiasme, mais cet enthousiasme, il est pas forcément favorable à la cause de l'humain.
Yann Lequin, c'est le patron de l'IA chez Facebook, hein, en l'occurrence. Julie Gaillot pour réagir, puis ensuite Victor Demieux pour nous parler du rapport de la CNIL.
C'est vrai, parce que on voit que pour 85% des Français, en effet, ils sont en train d'assister à une véritable révolution au même titre qu'Internet. Et pas une révolution dans 50 ans. Mmh. Une révolution qui arrive là, tout de suite, maintenant, dans moins de 10 ans. Et donc, forcément, face à ce bouleversement de grande ampleur qui s'annonce, ben, certains sont pris de vertige.
Ouais, mais c'est marrant de parler du futur parce qu'on y est déjà. Enfin, c'est même plus une question de futur proche. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cette révolution aujourd'hui.
Oui, complètement. En fait, les Français ont le sentiment de la vivre. Et d'ailleurs que l'IA a déjà complètement imprégné leur vie quotidienne. En fait, pour 80% d'entre eux, en fait, soit on y est déjà, soit on y est en train. C'est en train de bouleverser leur quotidien, en fait. Ouais. Et ils comprennent très bien, voilà, de quelle manière ça peut leur être utile, en fait, pour le simplifier. Mais c'est vrai qu'ils sont Ils ont pleinement conscience de la révolution qui s'annonce.
Victor Demieux, alors, ce rapport de la CNIL, qui a été chargé fin 2016, justement, de lancer une réflexion sur les enjeux sociétaux et éthiques de l'IA, avec donc une grande tournée dans toute la France. Il y a eu 45 manifestations organisées entre janvier et octobre dernier. Et puis, ces algorithmes en particulier, c'était vraiment la question posée, problème éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Pourquoi vous êtes concentré là-dessus en particulier ?
Alors, on s'était intéressé aux algorithmes, puisque à la fin de l'année 2016, début de l'année 2017, quand on a commencé à travailler sur ces questions, on parlait énormément de l'algorithme APB, donc le programme admission post-bac qui orientait les bacheliers vers les formations du supérieur. On parlait aussi beaucoup d'IA à cause de, enfin notamment dans le cadre de la campagne électorale de Donald Trump et de
la façon de cibler les électeurs.
Voilà, hein, la façon de cibler
avec
les
le recours
électeurs.
Aux intelligences artificielles.
Ouais. Exactement. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est-à-dire que on a eu un discours tout à fait apocalyptique à ce moment-là. Et puis quelques mois après, on s'est aperçu que les choses avaient sans doute été beaucoup gonflées par la société Cambridge Analytica qui travaillait pour Donald Trump. Et c'est un petit peu une clé de lecture de cette explosion de l'IA. C'est-à-dire que on parle tellement aux gens d'IA à tout bout de champ qu'évidemment, on leur dit c'est une révolution. Donc quand on interroge les gens, ils répondent ah bah oui, c'est une révolution. Donc c'est assez logique.
Ouais. Alors qu'est-ce qui ressort finalement de ce rapport là que vous avez rédigé, hein, après donc toutes ces consultations? Il y a eu beaucoup de choses d'ailleurs qui croisent au fond ce sondage dont on vient de parler à l'instant, hein. C'est les mêmes problématiques qui remontent à la surface.
Oui, on a voulu on a voulu nous avoir une approche de terrain en décrétant pas qu'on savait à l'avance quels étaient les enjeux éthiques de l'IA, mais au contraire en s'adressant à l'ensemble des acteurs, des organismes qui étaient intéressés par la question, et en leur disant eh bien organisez un moment d'échange, de réflexion avec vos publics dans votre secteur pour identifier les questions éthiques, pour identifier les problèmes que vous rencontrez dans vos communautés, dans votre environnement, pour identifier aussi les points de débat, les points de friction, oui. Pour identifier enfin les pistes de solutions. Et
il y a des recommandations
voilà,
aussi à la fin.
Et donnez-nous, enfin faites-nous une restitution de ce que vous aurez eu, à charge pour nous ensuite de coordonner tout ça dans un rapport. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a identifié, je dirais, quelques grandes problématiques éthiques qui sont celles qu'évoquait Jean-Michel Besnier, la question de la délégation, de la perte d'autonomie,
déresponsabilisation des individus,
des individus, des décideurs notamment,
la sélection, la question de l'emploi aussi est revenue.
Alors l'emploi c'est un secteur, donc on a les problèmes disons de déresponsabilisation peuvent se poser quand on pense aux recruteurs qui pourrait être tenté de s'appuyer sur des algorithmes, sur des intelligences artificielles dont on lui dit qu'elles sont beaucoup plus fortes que lui
pour recruter,
pour prendre la décision de recruter,
d'engager quelqu'un,
qui est une responsabilité aussi. Évidemment, cette question-là résonne avec la notion de l'emploi, mais je dirais que chaque thématique qu'on a identifiée en fait a des échos dans les différents secteurs d'activité.
La question des données, elle a été abordée évidemment, hein, le fait de livrer nos données aujourd'hui sous tout un tas de formes, ça pose question, ça pose problème.
Alors la question des données, elle nous intéressait moins directement dans le cadre de cette réflexion, parce que pour nous, elle est c'est un peu notre pain quotidien à la CNIL, et que là, il était question d'aborder les enjeux plus larges. Mais évidemment, elle est remontée parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous ces algorithmes, l'intelligence artificielle utilise énormément de données données personnelles, à la fois pour se perfectionner. Donc il faut des données, c'est un peu le carburant. Ensuite, ces systèmes servent à analyser nos données. Donc la question est de savoir où vont toutes ces données, comment elles sont utilisées pour nous profiler, pour nous contrôler, pour nous surveiller, et de s'assurer que tout ça est conforme aussi à la législation.
Julie Gaillot, justement, l'attitude des jeunes par rapport aux données, ça c'est intéressant, parce que c'est une sorte de clivage générationnel.
Complètement. On voit que, quand je vous disais que les jeunes étaient menacés, se sentaient menacés par l'IA, c'est moins...
Pas par la question des données,
non,
par exemple.
Non, c'est moins sur la question des données perso, en fait, d'après notre sondage, que sur la question de l'emploi et des destructions d'emploi que ça peut occasionner. Donc on est plus sur ces questions. Mais c'est vrai que la protection des données personnelles et les craintes qu'elle engendre, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de sondages, qu'aujourd'hui c'est une préoccupation très forte et une crainte très forte des Français sur ces questions, et qu'il convient de les rassurer, de leur expliquer, etc., pour faire taire en fait ces craintes, parce qu'on voit que voilà, il peut y avoir derrière en fait des images très fortes de Big Brother, etc., qui peuvent les freiner.
Un message de Frédéric Jean-Michel Beignet, l'intelligence artificielle sera ce que nous en ferons, même d'une finesse poussée à l'extrême, c'est au final le programmeur, l'humain qui va quand même décider. On peut quand même se rassurer là-dessus, non ?
Ben, je crois pas. Hein. Je crois que là que c'est de l'incantation. C'est une espérance qui relève d'un autre âge de l'intelligence artificielle. Lorsque l'intelligence artificielle était ce qu'elle était à la fin des années 1950, c'était le système expert, c'était la machine à jouer aux échecs, etc. Il y avait un programmeur, maintenant c'est des développeurs qu'on a, mais on n'en était pas à l'époque de la machine qui apprend. Le deep learning a constitué réellement une cassure dans notre représentation de l'intelligence artificielle. Et donc... On n'est plus vraiment aux commandes, tous les informaticiens ou les cybernéticiens vous le direz. Hein, nous créons des machines qui acquièrent de l'autonomie et qui apprennent des choses que éventuellement nous ne savons pas ou nous ne saurons jamais gérer pour ce qui nous concerne. Donc il y a réellement quelque chose de tangible dans les craintes que nous éprouvons par rapport à nos machines.
Allez, on consacre la dernière partie de l'émission au message des auditeurs. Vos réponses dans quelques minutes et franceinter.fr pour poursuivre la discussion.
Depuis que nous avons investi et placé des hubots au service d'empaquetage, la marge d'erreur a baissé, passant de 10% à 0%. Et le seul humain qui y tient encore un poste a toujours une marge d'erreur de 13%. Et puis, entre nous, je les trouve tous assez mignons dans leur genre.
Je suis rentrée de Londres, Léo. Je suis revenue des ombres, Léo. Les heures étaient trop longues, Léo. Sans ta peau sous mes ongles, je ne t'ai pas attendu, Léo. Je sortais dans la rue, Léo, pour goûter d'autres corps, Léo. Mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Léo, j'ai pris le train de nuit. Léo, je suis venue ici. Oh, dis-moi quelque chose, Léo. Voudrais-tu quelques roses, Léo? Bien, nous serons grandioses, Léo. Yes, we could be heroes. Les garçons, c'est pas toi. Ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort.
C'était Holidays et Léo sur France Inter.
La tête au carré.
Ça me fait peur qu'il ait pour seule compagnie un robot.
Mais non, faut pas le voir comme ça.
Comment alors ?
Souviens-toi du précédent, il s'y était beaucoup attaché.
Mais ça reste une machine, Hans.
Tu ne voulais même pas qu'on achète la machine à espresso.
Bravo, très drôle.
toujours eu peur de la technologie.
Il y a quand même une différence entre une machine à espresso et une machine qui s'occupe de papa au quotidien.
Je comprends très bien tes craintes, ma chérie, mais on vit une époque où tout est moderne. Il faut vivre avec son temps en oubliant les idées reçues. Puis il faut être réaliste aussi. Est-ce que tu as une idée de la somme que ça représenterait si tout à coup tu décidais de passer à mi-temps pour t'occuper de ton père ?
Voilà un extrait de la série Real Human, série suédoise à voir hein, si vous l'avez manqué sur Arte. Et pour parler donc de l'éthique et de l'intelligence artificielle, Julie Gaillot, Victor Demieux et Jean-Michel Beignet. Alors justement, il y a un autre Jean-Michel qui nous écrit « Choqué, dit-il, par l'émission entendue ce matin sur notre antenne chez Ali Rebéi, où on parlait des robots dans les EHPAD pour soi-disant tisser du lien social. » Burke, nous dit notre auditeur. Qui veut réagir là-dessus ? Allez, Julie Gaillot.
Et c'est vrai qu'il rejoint beaucoup de nos sondés. Puisqu'ils sont plus de 80% à nous dire qu'en effet, l'IA, c'est une menace pour les relations entre les gens. Mmh. Donc, il y a la crainte d'une société, effectivement, déshumanisée, froide, robotisée, sans authenticité, sans contact humain, etc. On voit effectivement qu'il n'est pas tout seul.
Ludovic nous écrit de Taïwan, où l'IA est en plein développement, on imagine. « Je parlerai, dit-il, de réelle intelligence lorsqu'un système IA conseillera à l'humain de cesser de développer ses armes nucléaires, de consommer moins, de préserver l'environnement, de ne pas voter pour Trump, et il y aura une réelle intelligence à ce moment-là dans le sens de la sagesse, mais l'humain acceptera-t-il une sagesse intelligente ? Jean-Michel Beignet. Une sage intelligence, comme on veut.
Je trouve que cet auditeur, il émet des attentes en direction des machines qui... C'est pas complètement idiot de se dire ça. Si la machine pouvait développer en nous du jugement moral, ce serait formidable. Mais il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Et je crois que l'intelligence artificielle est loin d'être capable de développer une espèce de conscience d'elle-même qui lui permettrait de formuler des jugements moraux et de nous fournir surtout des idéaux. Parce que c'est ça qui fait quand même la grande différence entre l'humain et la machine. C'est que nous, humains, nous sommes capables de penser un autre monde. Nous sommes capables de projeter des idéaux, de faire le pire également. Mmh. La machine n'en est pas capable. La machine, elle est rivée quand même à une immédiateté et elle réagit.
Sauf si elle devient très autonome, comme on le disait tout à l'heure quand même. Il y a quand même ces risques-là qui existent.
Sauf si elle devenait autonome. Mais elle deviendrait autonome en interagissant avec un environnement sur le média. Tandis que nous sommes capables d'interagir avec un environnement complètement idéal. Hein. Nous pouvons être mobilisés par des idées hein, et pas simplement par des stimuli. Hein. La machine très perfectionnée qui réagirait à des stimuli pourrait complexifier son comportement et nous apparaître comme intelligente, mais en aucune façon elle ne supplanterait l'humain que nous sommes et qui est capable de mourir pour des idées.
Victor Demieux.
Alors moi je voudrais souligner quand même que faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle d'autonomie, parce que c'est quand même une autonomie extrêmement relative et un peu vide. Aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va vous permettre reconnaître des images, de reconnaître. On donne des milliers de photos de chats à un système. On lui dit ça, ce sont des chats. On lui donne des milliers d'autres photos sans chats. On lui dit ça, ce ne sont pas des chats. Et la machine, en fait, là où elle est autonome, c'est que on lui a pas dit comment les reconnaître. Elle détermine elle-même les critères, elle fait des corrélations, etc. Et à partir de là, elle arrive à faire cette tâche qui aurait été impossible à faire avec des outils de programmation traditionnels où il fallait absolument tout spécifier, décrire la tâche à accomplir. Mais elle le fait sans avoir conscience de ce qu'elle fait, sans aucune intelligence et en faisant souvent des erreurs qui sont d'ailleurs souvent liées au biais que les humains ont mis à leur volontairement ou non souvent dans les jeux de données qu'ils leur ont fournis. Donc l'humain est quand même extrêmement impliqué dans toutes ces questions-là. Il est quand même derrière tout ça. Il ne faudrait surtout pas qu'il ait l'impression que la machine devienne plus intelligente que lui, parce que justement, la machine va rester quand même moins intelligente que lui, et c'est à lui de tenir les choses.
Ah, Gildas nous dit visiblement, vos invités sont là pour rassurer tout le monde sur les bienfaits à venir de l'IA. Pas Jean-Michel Beignet, hein, pour le coup. Désolé, dit Gildas, je suis moi-même développeur, je connais très bien le sujet, mais en tant qu'humaniste, je ne peux pas accepter qu'on injecte des milliards pour rendre les machines de plus en plus intelligentes, alors qu'on laisse les humains devenir de plus en plus bêtes.
Mais oui, il a parfaitement raison. Et c'est ça le grand risque, c'est que l'intelligence artificielle nous rende de plus en plus stupides. Et que par conséquent, nous soyons de plus en plus admiratifs pour des machines qui sont déjà elles-mêmes stupides. C'est ça le problème, la boucle que
enfin, vous... c'est une stupidité efficace quand même. Hein,
c'est une stupidité...
Qui a montré, qui a fait...
Efficace, même. Fonctionnelle. D'ailleurs, le concept de stupidité fonctionnelle est avalisé dans le monde de l'entreprise, par exemple.
Julie Gaillot.
Alors,
vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Non, je suis pas vraiment d'accord. Ouais. Regardez comment les Français se renseignent, comment les Français s'informent, comment les Français sont curieux, comment les Français s'intéressent à l'IA. C'est tout sauf une preuve de bêtise. Donc voilà, je pense que pour l'IA, là, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est un enjeu d'appropriation. Comment est-ce qu'aujourd'hui parler de l'IA ? Comment les pouvoirs publics aujourd'hui doivent présenter l'IA et tous les débats que ça soulève en termes éthiques, politiques?
Ben justement, il y a Patrice qui nous dit « C'est inadmissible que des technologies nouvelles qui voient le jour aujourd'hui n'aient pas de réflexion à moyen et long terme sur leurs conséquences sur le plan social et environnemental. » C'est pour ça que la CNIL fait des rapports, par exemple.
Exactement, mais d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il y a la mission de Cédric Villani
qui est arrivée la fin janvier.
Exactement. Quelques jours. À qui on a également remis notre rapport. Donc, ils en tiennent compte. Je pense que les pouvoirs publics sont vraiment en train de se mobiliser depuis au moins un an.
La demande de débat, est-ce que ça ressort dans les enquêtes, la concertation citoyenne?
Pas clairement, non, mais enfin, si vous voulez, on sent qu'il y a quand même un besoin d'en parler, il y a un besoin d'information, il y a un besoin de clarifier les enjeux, il y a besoin de cartographier. C'est comme si les Français avaient besoin d'une carte, d'une map, en fait, pour rentrer dans ce monde de l'intelligence artificielle et qu'on leur dise où on va et pourquoi.
Alors, Jean-Michel Bélier, vous, c'est ce que vous réclamez, justement, de la concertation, hein, et éclairer, évidemment, le citoyen, c'est ce
oui,
qui est
je,
central
je,
dans
je ces... réclame ça, et je réclame surtout que l'on prenne en compte l'imaginaire que sécrète l'intelligence artificielle. Je crois que c'est ça qu'on a découvert dans les politiques publiques aujourd'hui, c'est que on ne pouvait pas passer outre à l'imaginaire que développe dans nos esprits les machines. Donc, ça n'est pas simplement la question de l'acceptabilité des machines parce qu'elles présenteraient des avantages ou des inconvénients. C'est aussi que l'intelligence artificielle, c'est une question symptôme. À travers l'intelligence artificielle, au fond, la population des sociétés technologisées avoue ce qu'elle est, comment elle voit l'avenir, comment elle se représente à elle-même, qu'elle estime et la sienne. Je crois que derrière l'engouement pour l'intelligence artificielle, il y a souvent une grande mésestime de soi des individus que nous sommes. Et ça, c'est une vraie question. Cédric Villani l'a compris, d'ailleurs. C'est une question avec laquelle il faut compter, hein, et pas simplement avoir une réflexion techniciste sur l'intelligence artificielle. C'est aussi une question philosophique, voire métaphysique.
Allez, je vous laisse encore deux messages. Catherine, ex-institutrice, les dangers de l'IA sont sournois en matière d'éducation. Multiplier les savoirs via cette intelligence risque de diriger le système éducatif vers une pédagogie frontale, transmissive aux dépens de la démarche expérimentale, où les individus peuvent encore échanger en toute convivialité. Il y a des craintes, hein, vraiment.
Alors, pour le coup, sur l'enseignement, les Français y voient clairement une opportunité, pas du tout une menace. Je pense qu'ils voient derrière tout ce qui est MOOC, etc. aussi. Donc, voilà, là, pour l'enseignement, encore une fois, ils voient leur propre intérêt de démocratisation d'accès à la connaissance aussi.
Ce rapport, Victor Demieux, on peut le lire en allant sur le site de la CNIL.
Exactement, il est disponible. Et je pense qu'il fournit aussi une cartographie dont vous parliez et dont vous évoquiez le besoin.
Et puis celui de Cédric Villani qui va arriver. En attendant, vous pouvez aussi lire ce hors-série France Inter Libération, Voyage au cœur de l'IA, comment cette intelligence va changer, change déjà d'ailleurs nos vies. Et puis vous pourrez suivre les débats sur France Inter ce week-end, puisque c'est complet, archi-complet pour ce soir au 104 de la Maison de la Radio. Mais heureusement, les débats seront filmés et donc vous pourrez retrouver les discussions dès samedi. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis Jean-Michel Beignet, on retrouve également votre ouvrage sur les robots font-ils l'amour aux éditions d'Uno. Merci beaucoup.
Merci.
Et c'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Gaël Braouzac et Pierre-Yves Derolin qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, rediffusion d'une émission autour des mots du racisme.